Bon, entre vous et moi, cette semaine, on a posé une question assez simple au président des États-Unis. On lui a demandé, est-ce que l'Amérique est en guerre contre l'Iran? Et il a répondu, I don't know. Alors, je sais pas, l'homme qui a le bouton nucléaire, les porte-avions, le CIA, le Pentagone, ne sait pas s'il est en guerre pendant que je vous parle. 170 cibles militaires ont été frappées en Iran en 48 heures. L'Iran a riposté sur trois pays du Golfe. Le détroit d'Ormuz, un cinquième du pétrole mondial, est quasiment à l'arrêt. Et vous savez ce qu'a fait la bourse? Eh bien, elle est montée. Le pétrole, il a baissé. L'indice de la peur, il s'est effondré de 5%. Alors aujourd'hui, on va parler d'un chat. Un chat enfermé dans une boîte en 1935. Parce que ce chat, croyez-moi, il explique tout ce qui se passe sur les marchés en ce moment, et il explique aussi pourquoi ça pourrait très très mal se terminer. Bienvenue dans ce Morning Bull Live, je suis Thomas Veillet et nous sommes le 10 juillet 2026. Je vous préviens tout de suite, je tourne cette vidéo depuis Montréal, je pars pour Québec dans quelques heures et pour la première fois de ma vie de chroniqueur, j'ai écrit tout ça, j'ai rédigé tout ça avant la clôture de New York. Pourquoi? Eh bien parce que franchement, plus rien n'a d'importance. Tout le monde a déjà décidé comment l'histoire se termine. Trump arrête ses frappes ce week-end, il signe la paix lundi matin et le bull market continue. C'est écrit, c'est plié. Le marché a lu la dernière page du bouquin avant de commencer le premier chapitre. Le problème, c'est que personne, et je dis bien personne, ne sait si cette dernière page existe. Et c'est exactement là que notre chat entre en scène.
Cette émission vous est présentée par SwissQuote.
Alors avant toute chose, ce que vous allez entendre et voir dans cette vidéo n'est pas un conseil financier, c'est mon avis, mon analyse et parfois mon humeur du jour. Par contre, si vous voulez comprendre la bourse, là, vous êtes au bon endroit.
1935, un physicien autrichien, Erwin Schrödinger, en a marre de la mécanique quantique. Alors, pour se moquer, il invente une expérience de pensée, de réflexion. Vous prenez un chat, vous l'enfermez dans une boîte, avec une fiole de poison qui a une chance sur deux de se briser. Et tant que la boîte reste fermée, accrochez-vous, la physique quantique vous dit que le chat est à la fois mort et vivant, les deux en même temps. Et ce n'est qu'en ouvrant la boîte que la réalité se décide. Schrödinger a trouvé ça complètement absurde, c'était le but. C'était une blague de physicien, sauf que 90 ans plus tard, sa blague est devenue la politique étrangère américaine, parce que la guerre entre les États-Unis et l'Iran, aujourd'hui, c'est exactement ce chat dans cette boîte. Elle existe, mais elle n'existe pas à la fois. Simultanément, mercredi matin, à Ankara, Trump déclare que le cessez-le-feu est terminé. Mercredi soir, dans l'avion du retour, il raconte que l'Iran a appelé et supplie pour un deal. On bombarde 170 cibles militaires, mais on négocie quand même. On réimpose des sanctions, mais on discute. Et quand un journaliste demande au seul homme censé avoir ouvert la boîte, puisque c'est lui qui tient le couvercle, si la guerre a repris, il répond « I don't know, je ne sais pas ». Même l'observateur ne sait plus ce qu'il observe. Schrödinger n'avait pas prévu ce cas de figure. Mais attendez, parce que la vraie folie n'est pas là. La vraie folie, c'est la réaction du marché. Le chat est peut-être mort, peut-être vivant, et Wall Street a déjà commandé les croquettes pour la semaine prochaine. Regardez ces chiffres, parce qu'ils sont hallucinants. Le détroit d'Ormuz, c'est un cinquième du pétrole mondial qui passe par là, ça on le sait, un baril sur cinq. La semaine dernière, 33 tankers par jour, mercredi 13, dans la nuit 5 et en sortie de nuit 0. Les analystes maritimes parlent de conditions de conflit total. Dans n'importe quelle décennie précédente, je dis bien n'importe laquelle, j'ai connu les années 90, 2000, 2010. Ces chiffres-là, c'était un baril à $100 et un VIX à 40, panique générale, la une des journaux, ministre en cellule de crise, et en 2026, eh bien, le Brent baisse de 2% à $76, la VIX baisse de 5% à 16%, et le S&P gagne 0,83%. Les semi-conducteurs prennent bien sûr 4,6%. Le marché ne price plus la guerre, il price des escaramouches de missiles entre des périodes de calme relatif. C'est une vraie citation d'analyste, ça. Je l'ai relu deux fois. On a inventé la guerre bruit de fond, comme la pluie à Londres. C'est désagréable, mais on n'a pas non plus annulé ses plans pour le week-end pour ça. Pourquoi? Eh bien, parce que le marché a déjà vu ce film 14 fois depuis février. Escalade, menace, frappe, deal de paix. Et à chaque fois, alors, il ne se fatigue même plus à jouer la peur. Il saute directement à la scène finale. Il a décidé que le chat était vivant. Point final. Et pendant que tout le monde regarde les missiles, il se passe un truc beaucoup, beaucoup plus discret et franchement beaucoup plus inquiétant du côté des banques centrales. Alors restez avec moi parce que là, on entre dans le monde à l'envers. Je ne sais pas si vous êtes bien assis, mais le marché presse désormais au moins une hausse des taux de la Fed d'ici la fin de l'année. Une hausse, pas une baisse, une hausse. Les minutes de la Fed, qui ont été publiées mercredi dernier, montrent que plusieurs membres voulaient monter les taux dès le mois de juin. Et le nouveau patron, Kevin Warsh, a supprimé la forward guidance, la boussole que la Fed donnait au marché. Donc, on va récapituler. On ne sait pas s'il y a la guerre et on ne sait plus ce que pense la Banque centrale. Le brouillard total à tous les étages. Mais le meilleur, c'est John Williams. Alors, John Williams, c'est le patron de la Fed de New York. Et jeudi, il a lâché un aveu que personne n'a vraiment noté dans les médias et qui mérite quand même d'être encadré au-dessus de votre écran de trading. Il a dit « Les investissements dans l'infrastructure IA, les data centers, les puces, tout ce qui fait monter la bourse depuis 2 ans, contribuent quand même de manière évidente à alimenter une inflation trop élevée. » Sans fucking blague. Réfléchissez à ce que ça veut dire. Le thème qui fait monter la bourse est aussi celui qui pourrait forcer la Fed à monter les taux. Ce qui ferait baisser la bourse, et le serpent donc se mord la queue, et le marché applaudit quand même le serpent. Ah oui, et puis alors, petit détail, pendant que tout le monde achète du rêve, l'or gagne 1,5% à 4142 et l'argent bondit de 4%. Quelqu'un, quelque part, achète des assurances. On ne sait jamais qui, mais c'est rarement le type le plus mal informé de la salle de trading. Bon, maintenant, on va parler de la folie de la semaine parce qu'il y a un secteur où plus rien, absolument plus rien n'a de sens. Et ça commence par une action à 1200$. Micron, fabricant de mémoire. Alors pour ceux qui ne connaissaient pas, la mémoire, historiquement, c'est le business le plus cyclique de la tech. Boom, crash, boom, crash, boom, crash, quasi faillite, boom encore. La régularité d'un coucou suisse. Eh bien, Micron a annoncé jeudi un plan à 3 milliards pour sa chaîne d'approvisionnement américaine, une enveloppe totale de 250 milliards d'ici 2035. Et le titre a pris 9% pour se balader gentiment vers les 1200$ par action. Pourquoi? Eh bien, parce que l'IA dévore la mémoire. La HBM, la DRAM, tout ce qui stocke de la donnée, la demande, écrase l'offre. Les ventes mondiales de mémoire viennent d'atteindre 74,6 milliards de dollars par mois. Par mois. Et ce vendredi, aujourd'hui même, SKNX débarque sur le Nasdaq, ticker SKHY, opération sursouscrite 7 fois, 26,6 milliards sont levés, la plus grosse cotation ADR de l'histoire, devant Alibaba, devant Aramco, un titre qui a pris 600% en 12 mois et une des plus grosses IPO de l'année. Et pendant ce temps-là, Sam Altman, le patron d'OpenAI, l'homme qui a lancé toute cette histoire, se plaint sur CNBC que le coût de la mémoire devient, tenez-vous bien, un vent contraire pour son entreprise. Savourez quand même un tout petit peu l'ironie. Hein. L'homme qui a déclenché la ruée vers l'or se plaint du prix des pelles pour aller creuser dans les mines. Mais il y a un détail que personne, ou que presque tout le monde a raté jeudi, c'est le SOX. L'indice semi-conducteur a quand même gagné 4,6% et tous ses composants ont fini dans le vert. Tous, sauf un. Et c'est pas n'importe lequel. Nvidia, la plus grosse capitalisation boursière du monde. Le seul titre de l'indice qui finit dans le rouge. Cette année, Nvidia a fait plus 8% depuis le début de l'année quand son propre indice a fait plus 85%. La star absolue de l'IA est devenue le boulet de sa propre révolution. Pendant que Meta annonce qu'elle fabriquera ses propres puces dès septembre, pendant que même Starbucks, le vendeur de café, développe son IA maison pour virer les logiciels d'IBM et de Microsoft, quand votre latte devient une menace pour Big Software, c'est que le narratif a atteint sa phase mystico-euphorique. Et c'est précisément le moment que choisit un vieux briscard des crises pour publier le mode d'emploi du pire. Alors accrochez-vous parce que les chiffres qui arrivent sont violents. Satya Das, 40 ans à décortiquer les crises financières, vient de publier sa feuille de route du prochain crash et je vous la résume. Son acronyme, après le FOMO, la peur de rater la hausse, eh bien c'est le NOGO. No options but getting out. Plus d'autres options que de se casser d'ici. Si on prend maintenant les chiffres, 500 000 milliards de dollars d'actifs réels, les immeubles, les usines, les vrais trucs qui supportent plus de 1 million de milliards d'actifs financiers. Pour chaque dollar investi dans le concret depuis 20 ans, on a créé 4 dollars de passifs, dont 2 de dettes. 40% des sociétés américaines perdent de l'argent. 15% des boîtes mondiales sont des zombies. Elles payent des intérêts, mais elles ne remboursent jamais rien. Et l'investissement dans l'IA pèse aujourd'hui 17 fois la bulle Internet. 4 fois les subprimes. La bulle Internet a coûté 5 à 6 000 milliards. Les subprimes, 15 000 à 20 000 milliards. Je vous laisse faire la multiplication. Le scénario, si un jour il se déclenche, c'est toujours le même. Un événement mineur, évident, seulement rétrospectivement. Les appels de marge tombent, tout le monde vend en même temps, ce qui est encore liquide, la contagion saute d'une classe d'actifs à l'autre, le crédit se referme, et pour l'Amérique, les 30 000 milliards détenus par les étrangers deviennent un amplificateur. Les capitaux sortent, le dollar plonge, la boucle s'auto-alimente. Attention, je suis pas en train de dire que ça va se passer, hein. Je dis juste qu'un trader averti en vaut 2, voire 3. Au fait, la définition de EBITDA, version 2026, selon Satyajit Das, c'est devenu Earnings Before Iran, Tariff, Donald and AI. J'ai rien à ajouter. Et le détonateur de tout ça, il n'est peut-être ni à Téhéran, ni à Washington. Il est peut-être dans le marché le plus ennuyeux du monde, Tokyo. Le rendement du 10 ans japonais a touché les 2,9% hier. Plus haut depuis 30 ans, 9e séance consécutive de baisse des obligations japonaises du jamais vu en 20 ans. Et ma prévision perso, il tape les 3% dans la semaine qui vient. Pourquoi est-ce que vous devriez vous en soucier? Eh bien parce que le carry trade, emprunté en yens, presque gratuit pour acheter du Nasdaq, c'est le lubrifiant caché du bull market dans lequel on vit encore. Et la dernière fois que ce mécanisme a commencé à se déboucler, en août 2024, le Nikkei a perdu 12,4% en une séance. Et le S&P 500 a lâché près de 9% en quelques jours pour un simple début de débouclage. Les assureurs et fonds de pension japonais détiennent 1200 milliards de trésoriers américains. Ils ont déjà revendu pour près de 30 milliards au premier trimestre. Et Albert Edwards, stratège chez Soggen, bearish parmi les bearish, pose la seule question qui compte. Croyez-vous vraiment que la bourse américaine peut tenir plus de 20 fois les bénéfices si le 10 ans japonais converge vers les 4%? Sa réponse tient en un mot, non. Le marché le plus ennuyeux du monde est en train de devenir le plus dangereux. Il vous suffit de retenir simplement ça. Alors voilà où l'on est. Tout est pressé pour le happy end, la paix qu'on finira par signer, l'inflation qui refluera gentiment, la Fed qui montera pas ses taux, et le Japon qui restera sage. Ça fait beaucoup de happy end pour un seul scénario. Il suffit qu'un seul de ces happy end parte en vrille et on ouvre la boîte de Pandore. Mais en attendant, soyons honnêtes, la messe est dite, bull market is on et on est en mode à poil les shorts. Moi, je pars écouter le chant des baleines du côté de Québec et on se retrouve lundi matin, peut-être pour la signature des accords de paix pour la 23e fois, peut-être pas. Même Trump lui-même n'en sait rien. Le chat de Schrödinger est mort et vivant à la fois. Le marché, lui, a décidé qu'il était immortel. C'est généralement à ce moment-là de l'histoire que le vétérinaire débarque pour l'euthanasie. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne Swissquote en français, même si plus personne n'en a rien à faire de la finance cet été. Et ça recommencera pour de vrai en septembre. En attendant, on like, on commente et on partage. Et on se voit lundi matin pour une nouvelle vidéo. Allez, bye bye, ciao.
Ce contenu est informatif et éducatif destiné aux personnes connaissant les marchés financiers. Il ne constitue pas un conseil en investissement, juridique ou fiscal. Le trading et l'investissement comportent des risques, notamment la perte de capital. Les CFD et actifs numériques sont volatiles et ne conviennent pas à tous. Swissquote décline toute responsabilité quant à l'exactitude du contenu ou aux pertes liées à son usage. Produits et services disponibles selon la législation en vigueur.